VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriec et Eric Manilakiza en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du lundi 3 octobre 2016. Au sommaire ce soir.
Éthiopie, drame dans le traditionnel festival Oromo. Un mouvement de foule a fait au moins 58 morts.
Libye, 80 djihadistes tués hier dans une offensive pour reprendre Sirte, bastion du groupe État islamique.
Maroc, démantèlement d'une cellule féminine de l'État islamique. 10 femmes ont été arrêtées.
Syrie, l'État islamique revendique des attentats suicides dans le centre du pays.
Le président turc reproche à l'Union européenne de tarder à verser l'aide destinée aux réfugiés.
L'économie et les sports.
Juste après le journal. Grève des secteurs de la santé et de l'éducation au Tchad. À N'Djamena, les hôpitaux assuraient un service minimum. De même, élèves et étudiants empêchent la tenue des cours dans les établissements publics depuis le 15 septembre. L'Union des syndicats du Tchad proteste ainsi contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement, selon un communiqué transmis à l'AFP.
Le technicien des médias burundais, Egide Mwemero, est libre. Il est sorti de prison mardi dernier après avoir passé près d'un an en détention sans jugement en République démocratique du Congo. D'après Reporters sans frontières, cet ancien collaborateur d'une radio burundaise privée fermée par les autorités de Bujumbura est aujourd'hui à Kigali, au Rwanda, où il a rejoint sa famille. Egide Mwemero avait été arrêté dans le sud Kivu, dans l'est de la RDC. Il travaillait pour la RPA, Radio Publique Africaine.
Jean de Dieu Moussillo, sénateur et ex-ministre rwandais de la justice, est décédé aujourd'hui à Kigali. Âgé de 55 ans, il est mort des suites d'un accident sur son lieu de travail. Il a glissé ou trébuché dans l'escalier, d'après le président du Sénat rwandais. Jean de Dieu Moussillo était l'ancien président d'une commission controversée ayant accusé la France d'avoir participé activement à la préparation du génocide de 1994. C'est donc ce qu'a annoncé le président du Sénat rwandais.
Oui, Jean de Dieu Moussillo a en effet occupé plusieurs postes, Morgan. En Côte d'Ivoire, la manifestation de l'opposition ivoirienne prévue mercredi devant l'Assemblée où le président Alassane Ouattara doit présenter le projet de la nouvelle constitution a été interdite. C'est ce qu'a annoncé le préfet d'Abidjan, Sidiké Diakité. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
En Éthiopie, la ville de Bishoftu est en deuil. Au moins une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort hier pendant un festival traditionnel au Oromo. Un mouvement de foule a été provoqué par des affrontements avec la police. Il faut dire que la région Oromo connaît un mouvement de contestation anti-gouvernementale depuis novembre 2015.
Le président capverdien, Jorge Carlos Fonseca, élu dimanche avec plus de 70% des voix, s'est félicité d'avoir remporté une victoire historique en gagnant dans la totalité des circonscriptions. Les détails avec Nanit Talani.
Selon les derniers résultats officiels, Jorge Carlos Fonseca a remporté 74% des voix, portant sur 94% des bureaux de vote publiés ce lundi. Au cours d'un scrutin marqué par une très forte abstention de plus de 64%. C'est une victoire historique du point de vue des résultats que nous avons obtenus. En gagnant dans toutes les îles et dans toutes les circonscriptions électorales de la diaspora, cette victoire est la plus importante de la démocratie capverdienne, a affirmé M. Fonseca, candidat du Mouvement pour la démocratie au pouvoir, qui a promis de continuer d'être le président de tous. Âgé de 66 ans, M. Fonseca a très largement devancé ses deux rivaux indépendants, Albertino Grassa, 57 ans, un recteur d'université qui a joué la carte de l'équilibre des pouvoirs, et Joaquim Montero, 76 ans, un ancien combattant de la lutte pour la libération du pays, qui se présentait comme un vrai candidat du peuple. Considéré comme un modèle de démocratie sur le continent, cet archipel d'Afrique de l'Ouest est réputé pour sa stabilité politique et sa bonne gouvernance.
Et 10 femmes qui ont fait allégeance à l'organisation État islamique et voulaient commettre des attentats suicides dans plusieurs villes du Maroc ont été arrêtées ce lundi par la police. On fait le point avec Nathalie Barge.
Les 10 suspects ont essayé de se procurer des produits chimiques utilisés dans la fabrication de ceintures explosives, a annoncé le ministère de l'Intérieur, affirmant qu'elle voulait commettre des attentats suicides contre des installations vitales au Maroc. Elles avaient tissé des liens étroits avec plusieurs terroristes marocains également affiliés à Daesh et basés à la frontière irako-syrienne, a-t-il indiqué. Cette cellule féminine était par ailleurs chargée du recrutement et de l'entraînement de femmes pour l'État islamique, selon le communiqué, disant qu'elle était active notamment à Kenitra, Sidi Slimane, Salé et Tanger. Au cours des derniers mois, les autorités marocaines ont multiplié les annonces de démantèlement de cellules et d'arrestation de recruteurs présumés pour le compte du groupe djihadiste.
Nathalie Barge lutte pour le contrôle de Sirte en Libye. Les forces du gouvernement d'Union nationale affirment avoir tué 80 djihadistes au cours de leur offensive pour reprendre ce bastion du groupe État islamique.
À Johannesburg, la CITE, la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées, interdit aujourd'hui à la Namibie et au Zimbabwe de vendre leur stock d'ivoire à l'étranger au nom de la protection des éléphants. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est à l'issue de vifs débats que les délégués des 182 pays plus l'Union européenne ont largement voté contre la proposition controversée de la Namibie et du Zimbabwe. Dans un contexte de braconnage sans précédent des éléphants en Afrique, ces deux pays avaient demandé un feu vert à la CITES pour écouler leurs réserves d'ivoire confisquées ou provenant de pachydermes décédés de mort naturelle, avec l'objectif de financer ainsi leur programme de protection. Le nombre de pachydermes africains victimes des trafics s'est dramatiquement accru pour atteindre 110 000 spécimens massacrés au cours de la dernière décennie, selon l'Union internationale pour la protection de la nature. Le rejet de leur proposition a été rapidement salué par des ONG qui redoutaient une incitation au braconnage. Selon le WWF, le Fonds mondial pour la protection de la faune sauvage, la proposition de la Namibie et du Zimbabwe aurait pu ouvrir un véritable boulevard aux gangs criminels pour faire du blanchiment d'ivoire braconné.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, causant la surprise, les Colombiens ont rejeté dimanche l'accord de paix avec la guérilla des FARC lors d'un référendum sur l'accord visant à clore 52 ans de conflit. Ceci place le président Santos dans une position inconfortable, n'est-ce pas, Salwa Jafari?
Non, me rendirai.
Je ne céderai pas. Je vais continuer à chercher la paix jusqu'à la dernière minute de mon mandat parce que c'est le seul moyen de laisser un pays meilleur à nos enfants. Demain, je vais appeler toutes les forces politiques et en particulier ceux qui ont voté non pour les écouter et pour ouvrir un dialogue.
Le président colombien, visiblement déçu, a annoncé la nouvelle tout en rappelant que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Autre mécontent, Timochenko, le chef des FARC.
L'armée populaire, les FARC, regrette profondément le pouvoir destructeur de ceux qui, en semant la haine et la rancune, ont influencé l'opinion du peuple colombien.
À l'issue de ce scrutin crucial pour l'avenir du pays, le non s'est imposé avec plus de 50% contre 49,78% en faveur du oui. La participation n'a été que de 37,28%. L'accord, qui avait reçu un large soutien de la communauté internationale, mais dont le devenir est désormais incertain, entendait mettre fin à la plus ancienne confrontation armée de l'hémisphère nord. Au fil des décennies, ce conflit complexe a impliqué guérillas d'extrême gauche, paramilitaires d'extrême droite et forces de l'ordre, faisant plus de 260 000 morts et 45 000 disparus.
Syrie, destruction par des raids aériens ce lundi du plus grand hôpital de la partie rebelle d'Alep. La ville fait l'objet d'une vaste offensive du régime avec le soutien de la Russie. Moscou a démenti tout bombardement d'hôpital ou d'école malgré les accusations des Occidentaux. Par contre, la Russie s'est félicitée de la grande efficacité de ces raids aériens en Syrie.
La Russie toujours a suspendu aujourd'hui un accord crucial avec les États-Unis sur le recyclage de dizaines de tonnes de plutonium. Elles proviennent d'ogives nucléaires héritées de la guerre froide. Vladimir Poutine a justifié sa décision par le changement radical des circonstances et l'apparition d'une menace à la stabilité stratégique de son pays. Il a notamment évoqué des actions inamicales des États-Unis à l'égard de la Russie et leur incapacité à assurer le respect de leurs obligations. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et le début du conflit dans l'Est de l'Ukraine, les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas.
En Irak, au moins 10 morts aujourd'hui, dans deux attentats suicides revendiqués par le groupe État islamique dans des zones à majorité chiite de Bagdad. C'est ce qu'ont indiqué des sources médicales et de sécurité.
Au Yémen, 6 civils ont été tués et 8 autres blessés dans la chute aujourd'hui de 2 roquettes tirées par les rebelles chiites houthis. Ils ont visé un marché populaire de la ville de Taïs dans le sud-ouest du pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com.
Et on enchaîne sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Lors de la fête de l'indépendance du Nigeria samedi, le président Muhammadu Buhari a déclaré que le pays a dépensé plus de 720 milliards de naira pour sortir de la récession économique. Monsieur Buhari a indiqué que le naira devrait se stabiliser et a précisé par ailleurs que le gouvernement avait négocié avec les militants armés du delta du Niger pour mettre fin aux attaques contre les installations pétrolières. Au Burkina Faso, l'Office national des télécommunications est paralysé depuis 2 semaines par un mouvement de grève portant sur des revendications salariales et les politiques de recrutement. Confronté à une crise sociale post-privatisation, la direction de l'ONATEL affirme que le salaire moyen des agents actifs a augmenté de 60% en 6 ans. Addis Abeba abrite cette semaine le forum des négociateurs de la zone de libre-échange continentale. Les négociations porteront d'abord sur le transport aérien, les télécoms, les services financiers, les services professionnels et le tourisme. Les États doivent soumettre leurs offres tarifaires 6 mois à partir de l'adoption du projet des modalités. Le marché commun devrait être effectif en 2034.
Votre page sportive ce soir avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence par des nouvelles de Rigobert Song. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, l'ex-capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, aujourd'hui âgé de 40 ans, se trouve dans un coma selon la radio publique camerounaise. Il a été victime hier d'un accident vasculaire cérébral. Il a été admis au centre des urgences de Yaoundé. Les pouvoirs publics envisagent dans les heures qui viennent une évacuation sanitaire vers l'Europe. Mais qui est Rigobert Song? J'ai joint à Yaoundé notre confrère Jean-Bruno Tagné pour une réponse.
Bah écoutez, Rigobert Song, c'est le dernier vrai capitaine qu'on a eu au sein de l'équipe nationale de football du Cameroun. Rigobert Song a soulevé 2 fois le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002 au Mali et au Nigeria. Rigobert Song, c'est plus de 10 ans, 15 ans de présence en équipe nationale, donc 10 ans comme capitaine des Lions Indomptables. Il est resté très présent dans les cœurs des Camerounais.
Espérons qu'il va se remettre Bagassi. Et la CAF a défini la durée du mandat du prochain président de cette organisation panafricaine.
Oui, le prochain président de la CAF ne pourra pas aller au-delà de 12 ans, soit 3 mandats de 4 ans. C'est ce qu'a affirmé la CAF ce lundi par la voix de son porte-parole Junior Biyam. Cette mesure prendra effet dès la prochaine élection à la présidence de l'institution en 2017. Elle n'est pas rétroactive. Depuis 1972, la CAF n'a connu que 2 présidents. Cette nouvelle mesure, qui s'appliquera aussi aux membres du comité exécutif de la Confédération, permet à l'organisme de football africain de s'aligner sur les nouveaux statuts en vigueur à la FIFA.
Coupe d'Afrique des cadets 2017, on connaît les pays qualifiés.
Oui, il s'agit du Congo, du Cameroun, du Mali, du Niger, du Ghana, de l'Angola et du pays hôte, Madagascar.
Merci Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Morgan Guiriek et Eric Manilakis en votre compagnie. Place au dossier du jour et première escale, la Côte d'Ivoire.
Au moins deux partis d'opposition ont ouvertement critiqué le texte du projet de nouvelle constitution voulu par le président Alassane Ouattara et qui doit être présenté après-demain au Parlement. Le document qui a circulé en ligne par le parti leader de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, n'a toutefois pas été authentifié par les autorités ivoiriennes. Cet avant-projet fait mention de la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat. Il traite également de la question controversée de l'ivoirité. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint le professeur Eric Eddy de l'Université de Philadelphie.
Il y a d'abord la question du contexte politique ivoirien qui, vous le savez, depuis le 11 avril 2011, selon donc, les leaders de cette opposition, n'est pas une atmosphère de multipartisme. La deuxième chose, c'est que la constitution actuelle a fait l'objet de plusieurs violations. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que cette nouvelle constitution participe à la réflexion, la consolidation de cette cohésion sociale en Côte d'Ivoire qui est affolée en éclat.
Le document publié sur Internet, mais dont l'authenticité n'a pas été confirmée jusqu'ici par la présidence ivoirienne, mentionne la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat. Et pour ce qui est de l'article 35 qui a trait à la notion de l'ivoirité, un nouvel article est proposé pour le remplacer. Si ces propositions deviennent réalité, que signifierait-elles pour la Côte d'Ivoire ?
Nous pensons que refaire le tissu social en Côte d'Ivoire et politique demande une transition politique. La question de l'éligibilité à la présidence de la République en Côte d'Ivoire a suscité beaucoup de controverses. Donc si aujourd'hui nous passons à une certaine révision, l'élément ici est d'inclure toutes les forces vives de la nation pour réfléchir sur ce point précis et non une initiative privée.
Pour terminer, alors d'après l'opposition, ce projet permettra de faire sauter les deux verrous empêchant un éventuel nouveau mandat de l'actuel président, la limite d'âge et la limitation du nombre de mandats, grâce au passage à une troisième république. Alors, un projet taillé sur mesure pour le chef de l'État, partagez-vous cet avis ?
L'avant-projet que nous avons, ce que nous entendons déjà, parle de la suppression du verrou, de la limitation d'âge qui a existé, si vous voulez, dans la constitution de 2000. Et puis enfin, regardez au Burkina Faso, pays voisin de la Côte d'Ivoire par le Nord. On sait combien de fois la constitution a été manipulée pour permettre à Blaise Compaoré de se maintenir au pouvoir. Et même après encore deux autres mandats, il a voulu le faire changer la constitution, ce qui a amené la réaction de la société civile et des partis de pouvoir. Mais ce n'est pas la première fois. Au Congo, Denis Sassou Nguesso a fait pareil, il est encore au pouvoir. Au Tchad, Idriss Déby a fait pareil, il est encore là au pouvoir. Au Burundi, avec Nkurunziza, c'est la même chose. Donc il y a bien de raisons, effectivement, de croire que le passage d'une république à une autre serait aussi utilisé comme un subterfuge pour négocier un troisième mandat. En tout cas, tout porte à l'écoute. Voilà ce que je peux dire sur la question que vous avez posée.
Le professeur Eric Eddy, enseignant-chercheur à l'Université de Philadelphie, est aussi secrétaire exécutif du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Centrafrique, la présence de nombreuses tombes dans certains arrondissements de Bangui inquiète la population. De nombreux corps abandonnés ont été récemment enterrés dans les quartiers dans la capitale centrafricaine. C'est ce que nous rapporte Freeman Sipila.
Les habitants des quartiers de Bangui s'inquiètent notamment des probables conséquences de ces enterrements sur leur santé. Durant la crise, des corps en décomposition ont été enterrés aux abords des avenues, à proximité des habitations, dans des maisons ou encore dans des puits. Dans le quartier Ngola, à la sortie nord de Bangui, le chef Jean-Claude Wabi explique avoir enterré lui-même de nombreux corps dans des concessions. À l'approche de la saison des pluies, il craint un risque d'épidémie. Le quartier musulman de PK5 est l'un des secteurs les plus touchés par ce phénomène. Amadou Rafaï, deuxième conseiller à la mairie du 3e arrondissement.
On a exhumé certains corps grâce à une ONG FSD, les fonds pour les déminages. Certainement, ils ont exhumé des corps, mais cela ne suffit pas. Dans des informations, vous avez entendu qu'on a enterré dans des églises de Boulata, on a enterré partout ailleurs, même aux environs de l'aéroport, le terrain à Sekna, on a enterré des morts. Les musulmans ont enterré des morts, effectivement. Il y en a, et ça ne manque pas, on n'a pas tout déterré.
Face à la montée de l'inquiétude, les voix s'élèvent pour demander une action urgente du gouvernement et de la Croix-Rouge centrafricaine.
Nous exhortons vraiment le gouvernement, avec l'appui de la Croix-Rouge, de faire un effort pour essayer de déterrer ces cadavres et aller enterrer ça à des endroits appropriés.
Moi-même, j'ai assisté à ce phénomène. Il y a un de nos voisins qui avait perdu ses deux enfants. Et ses deux fils ont été enterrés dans leur propre concession. Mais arrivé à un certain moment, ce corps se décompose. Et les parents, même ceux qui étaient dans cette concession, ressentaient comment est-ce que ce corps se détériorait. Donc je pense que cela est un problème majeur pour la santé humaine.
Au ministère de la Santé publique, Dr Jean-Pierre Bangamingo, coordonnateur des centres d'urgence en santé publique, reconnaît les dangers de cette pratique.
Un corps qui serait décédé suite à une maladie contagieuse telle que le choléra que nous vivons, ces germes sont capables de circuler sous la terre et se présenter dans des puits ou dans des sources d'approvisionnement en eau de la communauté et entraîner une épidémie.
À la Croix-Rouge centrafricaine, un responsable indique que l'institution a les qualifications et l'expérience pour ce travail. Cependant, elle n'attend que l'autorisation du gouvernement. Le gouvernement qui n'a pas encore réagi à cette inquiétude. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Au Togo, 40% de la population de 15 ans et plus n'ont pas accès aux services financiers. C'est ce que révèle une enquête sur l'inclusion financière. Les résultats ont été publiés cette semaine dans la capitale togolaise. Kayilo Sonaloumé, son reportage.
La typologie de l'inclusion financière de la population togolaise de la tranche d'âge 15 ans et plus est désormais connue. Ce sont les résultats d'une enquête réalisée du 17 mars au 24 avril dernier sur la demande en services financiers des Togolais qui la révèle. Cette enquête, dénommée Finscope Togo 2016, a permis d'avoir des statistiques sur l'accès aux services financiers dans le pays. Akoli Gentry, directeur technique de l'enquête Finscope.
18% des Togolais utilisent les services financiers. Mais quand on étend aux microfinances, on se retrouve à 45% et quand on étend à toutes les institutions, on se trouve à 60%. Donc, ce qui veut dire que 60% des Togolais adultes, à l'âge de 15 ans et plus, utilisent les services financiers. Par rapport au crédit, seuls 27% de cette population a déclaré avoir eu du crédit. On se dit que ce taux est très faible. Et la raison principale évoquée, c'est que les gens n'aiment pas s'endetter.
L'accès au crédit doit avoir une incidence sur le pouvoir d'achat des Togolais, estime Dodi Kumunete, président de l'association Veille économique.
Le seul fait d'avoir accès au crédit ne résout pas le problème. Il faut une économie dynamique, il faut développer un certain nombre de secteurs qui sont essentiels à l'évolution de notre économie pour permettre à tous ces projets qui sont financés de pouvoir être rentables dans la durée.
Finscope Togo 2016 s'inscrit dans le cadre du programme « Rendre possible l'accès aux services financiers » qui a pour finalité d'améliorer l'inclusion financière en tenant compte des besoins réels des populations. Parmi les initiatives prises à cette fin figure le projet de transfert d'argent aux femmes financièrement vulnérables. Joëlle Bessinger, représentante résidente de la Banque mondiale au Togo.
Nous avons dans le projet de développement communautaire, sous son acronyme PDC+, un volet de transfert monétaire pour les femmes qui sont enceintes ou qui ont des enfants de 24 mois ou de moins pour assurer la nutrition de l'enfant. Et donc, ce petit transfert monétaire qu'elles reçoivent chaque mois peut permettre à la femme, avec les autres ressources qu'elle a, de faire des petites épargnes ou des dépenses pour améliorer le bien-être du foyer.
Finscope Togo 2016 recommande d'éduquer la population togolaise sur le système financier qu'elle ne semble pas maîtriser dans sa grande majorité. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Présidentielle américaine, le duel historique entre le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton a des répercussions inattendues. Et c'est le cas dans la pratique des endossements des candidats par les journaux. Le point avec Timothée Donangmaï.
Certains journaux ont une tradition bien établie de soutenir des candidats aux élections. Cet endossement est décidé par le service éditorial qui est bien distinct de la rédaction générale. En temps normal, certains journaux soutiennent les républicains et d'autres des démocrates. Mais les candidatures inhabituelles de la démocrate Hillary Clinton et du républicain Donald Trump ont amené certaines publications à un changement de cap. C'est le cas du Dallas Morning News, quotidien texan, qui a décidé de rompre pour la première fois avec les républicains, optant de soutenir Mme Clinton. Certains lecteurs ont applaudi cette décision, mais d'autres l'ont vigoureusement condamnée, prédisant de graves problèmes pour le pays.
D'autres journaux de sensibilité républicaine ont suivi le Dallas Morning News, décidant de soutenir la candidate démocrate Hillary Clinton, ou même le libertarien Gary Johnson, Tim.
Trump est un danger clair et immédiat pour notre pays, écrit le Cincinnati Inquirer, qui soutient depuis un siècle des candidats républicains, mais appuie cette année la candidate démocrate. Le journal dit avoir certes des réserves au sujet de Mme Clinton, mais que celles-ci font pâle figure comparée aux craintes que suscite Trump. De tout temps aligné sur les candidats républicains, le Detroit News accuse pour sa part le républicain Donald Trump d'être sans principe, instable et probablement dangereux. Émettant également des réserves concernant la démocrate Hillary Clinton, le quotidien du Michigan a décidé de soutenir cette année le libertarien Gary Johnson.
En 34 ans d'existence, le quotidien USA Today n'a appuyé aucun candidat. Il a décidé de faire exception cette année.
Contrairement aux autres journaux, USA Today n'appelle pas les électeurs à se prononcer en faveur d'un candidat donné. Son mot d'ordre, tout candidat sauf Trump. Le choix cette année n'est pas entre deux candidats des principaux partis ayant des différences idéologiques, mais l'un des candidats, le républicain Donald Trump, est inapte à la présidence, écrit le service éditorial de USA Today, attribuant à Trump une tendance au préjudice et une carrière en demi-teinte dans les affaires. La décision des journaux de rompre avec leur tradition dans l'appui au candidat peut avoir une incidence négative sur les abonnements. L'important, c'est que les gens soient mieux informés et qu'ils votent pour le candidat de leur choix, a déclaré Mike Wilson, un responsable du Dallas Morning News.
Merci Tim.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you.
la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde avec l'assistance tactique de M. Remkes à la console. Présentation Morgane Diriek et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VO Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. 1 900 000. On maintient la conversation. Enfin, visitez notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.